Georges Courteline, Boubou Roche, première partie. Ce soir-là, étant veuve de toute clientèle, le petit café où Boubou Roche venait quotidiennement s'enfiler d'ennemis, en jouant la manie aux enchères de compagnie avec les sieurs Rotte et Fouettard, défiait le fâcheux coulage ennuminé des limonadiers. Par-dessus les mousselines salies qui en masquaient l'intérieur aux passants, Boubou Roche, dressé sur ses pointes, en embrassa d'un seul coup le désespérant délacé. Les deux colonnes jumelles, courvêtues de velours rouge, hérissées de patères qui imploraient le vide, les banquettes aux dossiers de moleskine glacée, creusées à espaces réguliers, de matelassés où des ventres de vierges alternaient avec des nombris, le comptoir en forme d'autel, le reflet répété à l'infini dans un vis-à-vis de miroir, des quatre becs de gaz brûlant pour le roi de Prusse, au sein de suspensions aux bajoues élargies, évoquant l'auguste faciès de Louis-Philippe, roi des Français, enfin, le bel ordre des tables au marbre couleur de Saint-Doux, truffées comme des galantines. Cet aperçu, cueilli au vol, mit un pli d'inquiétude au front de Boubou Roche, lequel, méthodique en ses petites débauches, ne se voyait pas sans chagrin, amputé du plaisir de brailler 12, 20, 30, d'une voix de sonneur en ripaille, en pesant d'un coup d'œil d'expert habile aux estimations promptes, la valeur marchande de ses jeux. Ayant fait fonctionner le bec de canne de la porte, puis par l'entraînement de la dite avancée, son visage que secoua un salut à l'adresse de la caissière, « Ces messieurs ne sont pas là à m'aider » demanda-t-il. Hélas, au seul sourire triste et doux d'Amédée, soudain arraché à son somme et répondant qu'à moins d'un hasard improbable, on ne verrait pas ces messieurs ce soir-là, il comprit l'affreuse vérité. C'était la fin du mois, parbleu. La fin du mois dur et cruel aux petites bourses, par conséquent à celle des sieurs Fouettard et Rotte, personnages de condition humble, de qui les mois de 31 jours chahutaient sept fois l'an le budget de dépenses fractionné par 30e. Eh, flûte ! S'exclama Boubou Roche, qui prit congé de la caissière en ces termes plutôt concis, et dont la face un instant aperçue s'évanouit, pareille à cette ombre légère, si éloquemment évoqué à l'acte 2 du pardon de Ploermel par les lèvres de Déborah. Une minute hésitant, dérouté à l'envisager d'une soirée tout entière perdue, il tira de son gousset sa montre et constata qu'il était moins de 9 heures. Alors, au fait, murmura-t-il, et ayant décidé de monter chez Adèle, lui donner le bonsoir avant de s'aller coucher, il alluma une cigarette et s'achemina vers le boulevard Magenta. C'était une façon de colosse mastoque et apoplectique de qui riait les yeux ingénus de bébé dans une figure de gros mufle. Très pur et d'une tendresse avide de câlinerie, sans aucun des appétits de brute qu'il suait par chaque pore de la peau, il avait, la quarantaine proche, gardé cette fraîcheur de cœur des gens profondément aimants, qu'a inassouvi en de trop rares amours une naturelle et insupportable timidité. Elle était une petite veuve de 33 ans, rageuse, hargneuse, spirituelle, féroce pour peu qu'on l'attaquât, et excellent dans le bel art de vous brûler comme d'un fer rouge d'une malice appliquée au plus cuisant d'une plaie. Presque, pour qu'il osât la prendre, elle avait dû se placer de force entre ses doigts, ses doigts énormes, saupoudrés de poils roux et qui, après 8 ans, tremblaient encore à l'effleurer d'émotion et de gratitude. Car jamais il n'avait pu se faire à l'idée qu'il ne fût pas indigne d'elle. Humilité attendrie, attendrissante de pâteau, qui n'a que su délacer un corset sans en embrouiller les cordons, toucher sans s'y larder le pouce à une boucle de jartelle, et sous les petites pattes de l'ami, il tontonnait à plaisir, souriait à ses mauvaises humeurs et endossait le contre-coup de ses nerfs trop facilement irritables avec cette pensée que, mon Dieu, c'était bien la moindre des choses. Il avait la sereine douceur, l'indulgence inépuisable, la confiance obstinée, aveugle et imbécile, des hommes qui ne sont pas nés pour être des amants et veulent pourtant en être et n'en seront jamais. Il était parfaitement heureux. Adèle habitait au 4e étage d'une maison située boulevard Magenta. 4 pièces avec balcon sur la rue, l'eau et le gaz, 1 600 francs de loyer que payait Boubouroche en s'excusant de la liberté grande et en rougissant d'une légère confusion vu son extrême délicatesse touchant les procédés amoureux. La jeune femme, elle, qu'avait familiarisée avec les dures obligations de l'existence une couple d'années de mariage, prenait l'argent de Boubouroche sans en paraître autrement humiliée et même ne se gênait en aucune façon pour, à l'occasion, sous prétexte d'un manchon, d'un chapeau ou d'une traite trop lourde dont l'échéance se faisait proche, taper son amant de quelques louis qui n'étaient pas dans le programme. Boubouroche lâchait ses sous de la meilleure grâce du monde, quitte d'étant point riche à se priver un peu et à réduire un mois durant sa consommation, d'ailleurs excessive, de cigarettes blondes et de bock. Moyennant les 1 600 francs visés quelques lignes plus haut, un fixe mensuel de 15 louis, le casuel et de temps en temps les petits cadeaux inévitables, Boubouroche avait chez Adèle ses entrées à toute heure du jour. Il sellait un coup sec, puis du bout de ses doigts battait le rappel sur la porte pour indiquer que c'était lui, et ne pas obliger sa maîtresse à se juponner précipitamment si, à 7 minutes par hasard, elle se coiffait devant la glace en chemise. À vrai dire, il eût bien aimé avoir la clé, et plus d'une fois, il avait eu la bouche ouverte pour faire valoir ses droits à cette prérogative, mais toujours il était resté en chemin, effaré de sa témérité, ricanant inexplicablement, tandis qu'Adèle, qui l'agaçait, lui disait en haussant les épaules « Ce n'est pas pour t'appeler Arthur et te passer la main dans les cheveux, mais c'est extraordinaire ce que t'as l'air bête quand tu veux t'en donner la peine. » Le fait est qu'il la connaissait pour point commode, maîtresse femme jusqu'au bout des ongles, et absolue en ses petites manies de ménagère bien ordonnées, qui veut bien faire comme les autres, à condition bien entendu que les autres n'en sachent rien, et qui vit sans bruit dans son coin, avec la continuelle terreur d'attraper des taches de graisse et de faire causer les voisins. Un soir qu'il avait poussé l'extravagance jusqu'à parler de passer une nuit tout entière avec elle et chez elle, non ! Les cris de Jarre en détresse dont elle avait salué cette prétention. Boubouroche s'était tenu pour averti. Jamais plus il avait fait allusion à coucher ailleurs que chez soi. Et si la solitude de ses nuits pesait parfois à sa tendresse expansive, il s'en consolait en pensant qu'Adèle n'avait pas plus de sens qu'un tuteur à ramer les poids, et qu'à tout prendre, l'absence de sens chez la femme est encore le meilleur garant que l'on puisse espérer de sa fidélité. Donc, Boubouroche, ce soir-là, décida de monter chez Adèle, lui donner le bonsoir, avant de s'aller coucher. Comme il atteignait le 3e palier et qu'il s'y arrêtait pour souffler 1 minute, Un vieux monsieur qui venait des étages supérieurs et dont le visage à la Voltaire arborait des tons de parchemin, l'aborda le chapeau à la main et lui dit « Je vous demande pardon, vous êtes bien monsieur Boubouroche ?» Étant en effet Boubouroche, Boubouroche déclara qu'il était Boubouroche. « En ce cas, reprit l'inconnu, c'est bien vous qui avez pour maîtresse la personne du quatrième ?»« Mais, fit Boubouroche stupéfait, le monsieur poursuivit, « Je vous en prie, monsieur, veuillez répondre sans détour à la question que je vous pose. Oui ou non, monsieur, simplement. Je vous dirai pourquoi après. » Alors, vaguement inquiet, soit, déclara Boubouroche, il est en effet exact que cette dame est mon amie. C'est tout ce que je voulais savoir, dit alors l'étranger avec une grande politesse. Eh bien, monsieur, elle vous trompe. Entendant cela, allons au café, dit Ernest Boubouroche, on est mal pour causer ici.